réveil avec Europe 1. Les informations, Lénaïque Monnier, Bernard Poiret.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de votre journal, Lénaïque, France-Brésil. Ce soir, ce sont les filles sur la pelouse pour le Mondial.
Et pour un huitième de finale de Coupe du Monde, ça se passe au Havre, une ville qui vit à l'heure de la Seleção. Reportage dans ce journal. La PMA pour toutes sur les rails que contient le projet de loi de bioéthique. On en sait un peu plus ce matin. Et puis des amplis qui crachent des décibels à gogo. On vous emmène au Hellfest, le festival du métal hurlant.
France-Brésil, ah ça rappelle de bons souvenirs, hein, 98, là on est en 2019, on verra bien. Mais on espère que ce sera encore un bon souvenir vers 23h ce soir.
Parce que les Françaises disputent leur huitième de finale de Coupe du Monde. Le match se joue au Havre, une ville historiquement et commercialement très liée au Brésil. L'immense volcan blanc érigé par Oscar Niemeyer domine d'ailleurs la ville. Autant dire que le match de ce soir va se dérouler dans une atmosphère assez extraordinaire. Simon Rubin s'est baladé dans les rues.
Marchez 5 minutes dans le centre-ville du Havre et vous verrez un peu partout les drapeaux français accrochés aux vitrines, les enfants, garçons et filles, maillots des bleus sur le dos. Pas de doute ici, on prépare activement le match de ce soir à la terrasse d'un café qui donne sur les docks. Tout le monde parle foot et chacun y va de son pronostic.
Ils vont gagner contre le Brésil, mais carrément, il n'y aura pas de surprise.
Vous serez au stade ou pas ?
Non, justement, j'ai pas pu avoir de place, malheureusement. Mais je serai devant la télé.
On va être provocateur, on va dire 1 et 2 et 3-0.
À quelques centaines de mètres de là, sur la plage, Lydia est venue jouer au foot avec sa fille. Elle est brésilienne, installée au Havre depuis quelques années. Un pied dans chaque camp, comme ça au moins, elle est tranquille.
Je pense que ça va être un bon match, mais ça va, c'est bien. Si la France gagne aussi pour moi, c'est bien aussi. Ma fille, elle supporte la France presque plus que le Brésil.
Et ce dont on se rend compte ici, au-delà du match de ce soir, c'est bien de l'effet Coupe du Monde sur cette ville qui fait le plein de touristes à l'occasion de la compétition. Stéphane, à vrai pure souche, n'avait jamais vu ça.
Voir des étrangers un peu partout au Havre, c'est vivant. En plus, il y a le soleil. C'est très très bien au niveau touristique, mais même au niveau de l'image de la ville, c'est très très bien pour le foot français et le foot féminin surtout.
Ce soir, le stade sera évidemment comble. On attend 25 000 spectateurs. Le Havre, Simon Rubin, Europe 1.
Et France-Brésil, c'est donc à 21h à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, mais prise d'antenne exceptionnelle dès 20h.
Et puis on développe bien sûr les enjeux sportifs de ce match dans le journal de la Coupe du Monde féminine. C'est dans la foulée donc de cette édition de 6h. Je me permets de rajouter un petit mot, Lénaïque, peut-être vous ne le savez pas, le fameux volcan de Niemeyer au Havre est surnommé par les Havrais eux-mêmes le pot de yaourt. C'est vrai qu'il a une tête de pot de yaourt inversée.
Ah bah voilà.
Dans l'actualité également, ce matin, il y a la PMA, la procréation médicalement assistée. Cette PMA, désormais et bientôt, ce sera pour toutes.
C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le journal du dimanche dévoile ce matin ce que contient le projet de loi de bioéthique dont le premier article va concerner l'extension de la PMA à toutes les femmes. Explication d'Anne-Laure Barré, journaliste au JDD.
Le texte, il ouvre la procréation médicalement assistée, la PMA comme on dit, aux couples de lesbiennes et de femmes seules. C'est une vraie révolution de la famille, mais c'est aussi un texte bioéthique, donc il y a tout un tas de mesures qui visent à mettre des limites à la science, à la médecine ou parfois à ouvrir des possibilités de recherche, à moderniser la législation. Le fait que cette mesure soit adoptée, ça va susciter plein de questions et susciter plein de réformes. En creux, se dessine une réforme de la filiation et elle pourrait concerner les enfants qui seront nés de deux mamans grâce à un donneur de sperme, mais aussi les enfants qui sont nés par PMA, de couples hétérosexuels, grâce à des donneurs. On va s'intéresser et très certainement ouvrir pour ces enfants-là, une fois devenus adultes, une fois qu'ils auront 18 ans, la possibilité d'avoir des informations sur leur donneur, sur la personne qui est à l'origine de leur naissance. Ils pourront éventuellement le rencontrer si celui-ci est d'accord.
Anne-Laure Barré, journaliste au JDD, interrogée par Jean-Jacques Herry, le projet de loi doit être présenté en Conseil de ministres le 24 juillet.
Les Verts, eux, veulent surfer sur la vague des européennes. On l'évoquait hier matin, ici même, à 8h15 avec David Cormand, le patron des Verts. Désormais, objectif municipal, voire au-delà.
Après le bon score de Yannick Jadot, les Verts se sont réunis hier en Conseil fédéral pour commencer à plancher sur les municipales. Le député européen voit même déjà un peu plus loin. C'est une ambition qui plaît aux militants, même s'ils ne souhaitent pas non plus tomber dans la précipitation. Reportage Virginie Riva.
Lorsque Yannick Jadot monte à la tribune, la salle se lève, c'est l'ovation et déjà il affirme son ambition pour les élections municipales, mais aussi pour 2022.
Nous avons aussi la responsabilité aujourd'hui de porter une alternative pour une alternance dans notre pays. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours confortable avec l'élection présidentielle. Ce temps de l'hésitation et révolu.
Yannick Jadot, pas dupe des railleurs, on dit que j'ai le melon, lance-t-il à la salle, ce qui fait rire les militants, des militants fiers du score aux européennes, mais lucides comme Fatima.
Les européennes, c'est particulier aussi, hein. Faut pas non plus, voilà, faut rester quand même réaliste, mais je pense que ça peut être le deuxième homme ou le premier homme en 2022, il n'y a pas de problème.
Gilles, lui, voit beaucoup moins loin que 2022, à l'inverse des leaders de son parti.
Et c'est pour ça qu'ils sont chefs ? Ils sont là pour voir loin, mais il n'en reste pas moins que moi qui suis un cadre intermédiaire, ma réalité de terrain me fait considérer que l'essentiel, c'est les municipales.
Les municipales ou l'occasion, rappelle le secrétaire national du parti David Cormand, de prouver que les Verts peuvent gouverner.
Virginie Riva pour Europe 1.
Le reportage donc de Virginie Riva, et puis je vous rappelle qu'à 10h au grand rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos, ce matin, Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, sera l'invité de l'émission. Bien sûr, il sera question des municipales avec M. Woerth, mais pas que de ça. La vague de chaleur va s'abattre sur le pays, ça c'est sûr.
La canicule va débuter pour beaucoup dès demain. Mais dès aujourd'hui à Paris, la préfecture déclenche l'alerte canicule de niveau 3 sur 4. Le thermomètre atteindra les 40 degrés par endroit, 25 dans la nuit. C'est sans précédent pour un mois de juin.
Et dans le même temps, on note une recrudescence des incendies.
Des dizaines d'hectares de pinèdes sont déjà partis en fumée. Il y a une semaine, les pompiers du Var ont affronté leur premier feu de l'été. C'est ce département très boisé qui inquiète les pompiers parce que beaucoup de touristes y affluent. Alors, à quelques jours des grandes vacances, les autorités appellent à la prudence car tout peut aller très vite. Frédéric Michel.
Des campings et des plages bondées, les massifs et l'arrière-pays très fréquentés. L'été, le Var attire la France et le monde entier. Mais avec la chaleur et la sécheresse, la moindre étincelle peut déclencher un feu. Le colonel Éric Groin commande le SDIS 83, les pompiers du Var.
La semaine prochaine, on annonce de grosses chaleurs, ce qui ne va pas aller dans notre sens. Il y a un comportement à voir. Nous sommes ici dans un pays méditerranéen, la forêt brûle. Pour ça, il faut faire attention aux mégots de cigarettes, jeter d'une fenêtre. Il faut faire attention au barbecue. Et quand on va dans un camping, il faut écouter parce qu'il y a des directives qui vont être données en cas d'incendie.
Des comportements auxquels la population locale est sensibilisée. Les propriétaires en lisière de bois ont par exemple l'obligation de débroussailler. Une communication préventive tournée aussi vers les touristes. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Olivier Audibert-Troin préside l'agglomération de Draguignan.
Nous avons, nous, des moyens de communication. Nos petits magazines municipaux, nous médiatisons un certain nombre d'exercices qui sont menés par les pompiers. Il y a du travail dans les écoles. Tout ce travail est absolument nécessaire pour rappeler que ces concitoyens citoyens permettent de maintenir une nature qui est splendide, mais souvent aussi permettent de sauver des vies.
Dans le Var, en plus des 500 hommes présents chaque jour dans les casernes, plus de 500 autres sont mobilisables et entraînés à intervenir sur les feux de forêt.
Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1.
On est en plein dans la saison des festivals, c'est le début, mais il y en a déjà pas mal en cours. Gros plan sur le Hellfest, par exemple, de Clisson, qui s'achève ce soir.
Au beau milieu des vignobles nantais, des fans de métal ou de hard rock, 60 000 festivaliers se sont pressés pour voir ZZ Top, Kiss ou encore Def Leppard. Reportage de Pierre-Baptiste Vanzini au cœur de ce festival, à l'univers totalement à part.
Énorme, des scènes partout, une déco à la Mad Max, le show, c'est à chaque instant, même les festivaliers s'y mettent comme ce barbare Conan avec sa peau de bête en plein soleil, même pas mal.
Si, j'ai chaud, mais quand le soir est venu, je suis très content avec ma peau de bête sur moi.
Alors la question qu'on peut poser aux barbares, c'est pourquoi fait-il ça ?
On dit bonjour aux gens, on s'amuse, tu tapes dans l'épaule du gars, tu lui fais un petit Cinelfest... C'est bien. Et puis au concert, tu t'amuses aussi. N'étais pas là pour faire chier les autres.
Émilie, venue de Lyon, elle découvre l'ambiance. Elle arbitre un match de rugby improvisé en micro-brassière noire.
J'ai pas les mots, c'est trop bien. La musique, l'ambiance, les gens, le respect en fait. Je suis à moitié à poil, sinon je serais pas habillée comme ça. Y a pas de jugement, c'est très bien.
Émilie est designer, Conan fonctionnaire, Fred un informaticien qui a si elle feste au compteur, en a vu d'autres.
J'ai croisé des banquiers, j'ai croisé des avocats, Donc c'est rigolo, on se dit dans la vie, ils sont forcément pas comme ça, quoi. Donc tout le monde a besoin d'un endroit pour se mettre à l'aise, quoi. On peut venir déguiser en licorne, c'est pareil, quoi. On voit pas beaucoup de t-shirts de rap ou de Justin Bieber, mais ils pourraient venir pareil, ce serait rigolo.
Voilà, Justin Bieber au Hellfest, ça donne une bonne idée de l'ouverture d'esprit ici. Clisson, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe.
Je me permets de rajouter que ce sont les Californiens épouvantables du groupe Slayer qui vont conclure cette édition 2019 du Hellfest, édition où s'est rendu, comme chaque année, mon ami Valérie Quintin, que je salue bien bas, mais qui très certainement, alors qu'il est, dort profondément.
Il est 6h10.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Les Naïcs, l'équipe de France féminine entre, comme on dit, dans le vif du sujet. Enfin, elle y est déjà depuis deux semaines, mais là, ça devient vraiment du sérieux avec élimination directe en cas d'échec. Les Bleus jouent ce soir leur huitième de finale.
Et l'affiche a de l'allure. France-Brésil, voilà qui donne envie, ça rappelle. Et ce sera toujours comme ça. France 98, Zidane et sa bande. Bref, des moments de joie. Sauf que là, effectivement, c'est qu'un huitième. Et les Bleus veulent aller beaucoup plus loin dans leur mondial. Même si c'est un match à élimination directe, ce n'est qu'une étape sur le chemin de la victoire finale. C'est en tout cas ce que Corinne Diacre a voulu faire intégrer à ses joueuses, dédramatiser l'enjeu.
Écoutez, on se prépare comme on s'est préparé sur les trois premiers matchs de poule, même si on sait qu'effectivement une nouvelle compétition démarre, avec bien évidemment un vainqueur et un perdant à la fin de ce match-là. Je trouve mon groupe toujours aussi serein, toujours aussi travailleur quand il faut travailler, toujours aussi déconneur quand il faut savoir déconnecter. Donc maintenant, écoutez, effectivement, on a un match couperet. Il nous attend maintenant que des matchs de ce genre-là, mais c'est ce qui fait aussi le charme d'une Coupe du Monde, on ne va pas s'en plaindre. Maintenant, si on doit déjà penser à l'élimination, c'est un peu compliqué. L'idée, surtout, c'est de jouer ce match-là et de ne pas avoir de regrets à l'issue du match.
Corinne Diacre, sereine, mais fixée sur ses objectifs pour Europe 1, d'autant que les Françaises, c'est important, n'ont jamais perdu face au Brésil.
Il y a une joueuse qu'on va suivre particulièrement ce soir, c'est l'attaquante brésilienne Marta.
Parce que c'est bien d'elle que pourrait venir le danger. Elle a 33 ans, la numéro 10 et la meilleure buteuse de l'histoire de la Coupe du Monde avec 17 buts, hommes et femmes confondus. Elle pourrait même avoir prochainement un stade à son nom. Son palmarès est clinquant, 5 fois meilleure joueuse du monde, 2 Copa América, 2 médailles d'argent olympiques. Voilà qui force le respect, y compris de ses adversaires, comme Eugénie Le Sommer.
C'est une légende, tout simplement. C'est quelqu'un qui a une carrière extraordinaire, qui a une longévité dans sa carrière aussi, qui partout où elle est passée a marqué ses équipes, qui a été performante et qui l'est encore. Donc voilà, une joueuse forcément dont il faudra se méfier et qui est capable de tout à tout moment et qui peut être dangereuse, donc à nous de faire attention.
Eugénie Le Sommer avec Julien Froment. France-Brésil, c'est donc à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 ce soir avec nos équipes qui vous attendent dès 20h. L'autre huitième se joue entre le Cameroun et l'Angleterre.
Et on connaît par ailleurs deux équipes qui sont déjà qualifiées pour les quarts.
Après plus de 120 minutes de jeu, un match nul, un partout et donc une séance de tir au but, c'est la Norvège qui s'est qualifiée venant à bout de l'Australie. Match plus facile pour l'Allemagne, la Mannschaft a battu le Nigeria 3-0.
Ah oui, parce que les filles aussi, ça s'appelle la Mannschaft.
Eh oui.
Absolument. Bon, en fait, ça veut dire l'équipe en
allemand. C'est ça, la sélection.
Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Lénaïque Monnier. Vous revenez à 7h pour un prochain journal.